Rome. Il a soit que Uranus, 15 du Lion, en transit, 15 du Lion, il vient de l'avoir fait il y a 2 ans, l'année dernière encore, il va de soi que l'Uranus transitant en carré de ce Jupiter et à 15 du Lion va entraîner ce Jupiter dans un éventail nettement uranien. Il va l'entraîner, il va lui commander une escalade dans l'extension de son de l'être uranienne de cet être. Et le Jupiter va être pris dans le système uranien du Terre. Là, le Jupiter, qui est toujours dans sa position fondamentale, radicale, il reste dans sa position, mais toute sa puissance maintenant est tirée dans le tout le régime uranien du Terre. Donc le régime jupitérien maintenant est emmené dans un régime uranien et c'est le mélange des deux régimes dont la personne va se trouver bénéficiaire par le simple fait qu'Uranus est entré enfin en carré, en transit avec le Jupiter de naissance. Bon. Mais quel est, je ne le mentionnerai même pas, tellement c'est connu, surtout dans ces groupes ici, Si je ne parlais pas alors de l'autre carré. Supposons que Uranus, que ce Jupiter soit 15 du Scorpion, radical, et que l'Uranus arrive 15 du Lion. Quelle est la différence? Lorsque Uranus viendra faire le carré, prendra Jupiter par derrière, au lieu de le prendre par devant. Ici, Jupiter, Uranus vient à 15 du Lion. Il est plus grand que Jupiter, et il l'attrape par derrière, par le revers. Attraper un astre par le revers, c'est pas la même chose que l'attraper par devant. Mais pas du tout la même chose. Pas du tout. Et quel est le revers dans ce cas-là? Eh bien, le voici. Et je vous invite, par l'emploi d'un compas, de feuilles de papier blanc, d'une série de cercles concentriques, à faire le calcul vous-même sur vos propres thèmes lorsque vous avez des machines pareilles ou lorsque vous avez des planètes en carré, de faire le mouvement de l'une sur la plus rapide des deux, de la lui faire faire le tour et de qu'elle se présente devant l'autre planète dans les deux positions carrées d'extre et céleste. C'est enfantin et c'est pas perdu. Mettons les points sur les i. Alors, cet Uranus venant maintenant 15 du Lion, vous avez donc un Jupiter 15 Scorpion. Il y a un Jupiter 15 Scorpion, c'est un Jupiter Scorpion, avec tout l'élément du Scorpion pour lequel il est particulièrement doué. Il est dans une certaine maison, de ça nous ne pouvons pas avoir cure maintenant. Nous savons qu'une chose, il est 15 Scorpion. Imaginez maintenant une maison dans laquelle il se trouve. Dans un instant, nous allons l'imaginer. Tenez, il faudra même aller pousser la chose jusqu'au bout. Il est donc un scorpion. Il est dans sa position radicale. Et il fonctionne comme tel. Il fonctionne comme tel. Supposons, par exemple, pour lui montrer que sa fonction va être vraiment constamment orientée en avant, par une planète en quadrature de lui devant, supposons même, pour rendre la chose dramatique, que la quadrature de ce Jupiter-Scorpion soit à un Pluton 15 Verseau. Ça lui fera le carré exact. Il n'y a pas de soi de nos générations, c'est impossible. Mais pour le besoin de la cause, vous voyez tout de suite que peut-être un Pluton 15 Verseau carré un Uranus 15 Scorpion. Vous voyez tout de suite la culbute. Le chavirement perpétuel, l'épuisement constant de la sève jupitérienne, de la puissance de croissance, se chutant là, dans cet abîme du niveau plutonien de la nature, de la personne. Alors, vous voyez ça dans le thème, eh bien, vous pouvez vous dire, voilà Uranus qui va venir faire le carré de l'autre côté. Ou alors, vous allez vous dire, Saturne va venir faire la même chose. Saturne arrivant de l'autre côté va attraper à 15 du Lion, faire l'opposition à Pluton, mais ça c'est rien. il va faire le carré au Jupiter, et alors, à ce moment, tout à coup, Jupiter va être redressé. Il ne le sait pas que momentanément, puisque ce n'est qu'un transit qu'il amène, mais quand même, il en restera toujours quelque chose. Et sur le moment, vous savez que parce que cette planète a fait contrepoids, en prenant le carré d'Ex, en le prenant par le revers, Jupiter est arrêté tout net dans son coup de bascule. C'est une question toujours de balance. Tout est une question d'équilibre dans tous les thèmes. Tout, la vie étant un équilibre instable qui se perd et se retrouve tout le temps, toujours c'est la loi de ce qui détermine l'équilibre qui est en jeu dans tous les thèmes, dans tous les degrés, les 360 degrés, dans tous les signes, dans toutes les maisons, dans toutes les planètes. Ça va de soi. Alors, mais mettons maintenant, Pluton ne commandait rien à Jupiter et que le Jupiter, bravement, il est là dans le 15 du Scorpion. Alors il se dit, moi je suis ce Jupiter, je dis, eh bien, je suis Jupiter, je donne tout l'appétit dont je suis plein au thème, à l'individu de ce thème. J'appartiens à cet individu, je le sers, il me sert, c'est une réciprocité, je lui donne l'appétit de la vie, le goût de la vie et la capacité de l'assimiler. Je le fais croître. Oh, mais je le fais croître, hein, je suis Jupiter, je le fais croître. Et comme je suis dans le Scorpion, je le fais croître en lui donnant un certain dynamisme de la vitalité sexuelle. Voilà. Totalement, tout de suite. Je lui donne un certain dynamisme, c'est mon but, c'est ma fonction ici, puisque je suis placé là, de lui donner un certain dynamisme de la fonction sexuelle, qui sera d'autant plus, exploité ou exploitable, suivant la maison où ça se passe encore. Ça va de soi. Bon. Alors maintenant, vient Uranus. Si on dit à Jupiter, mais dis donc Jupiter, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Jupiter, d'un enfant, vous dira, pour le plaisir. C'est le marquis de Castellane qui demandait aux maires, au préfet de Paris, d'avoir une division de l'armée française pour la fête qu'il voulait donner au Bois de Boulogne. Donc j'étais un demande de Castellane, n'est-ce pas? Et le préfet de Paris, tu lui avais dit, monsieur le marquis, pourquoi voulez-vous ça? Mais pour le plaisir, monsieur. C'est tout simplement pour le plaisir. Nous sommes dans la belle époque. Madame Mademoiselle Guimère, c'était assez historique cette phrase. Elle est historique. Je ne peux pas jamais l'oublier cette phrase quand je vois les immeubles de Paris qui ont été construits en 1900. C'est tellement genre des immeubles de 1900. Je pense que c'est ça. Alors, je lui dis à dire, ça fait plaisir. Oui, mais rien ne se fait dans le thème pour le plaisir. Aucune planète ne fait ce qu'elle fait uniquement pour le plaisir. Jamais. Oh, jamais. Parce que lorsqu'elle le faisait pour le plaisir, elle aurait une tendance à être tangentielle au centre. Elle serait carrément centrifuge. Une chose qui est faite pour le plaisir de la faire un point c'est tout, c'est centrifuge, ça. C'est le commencement du danger. Alors, vient Uranus par derrière. Et tout à coup, Uranus rejette sur Jupiter une lumière, mais comme Uranus est un phare et dont les feux vont aussi bien derrière que devant, Uranus montre à Jupiter la perspective des opérations jupitériennes. Il lui montre la perspective dans laquelle les opérations de Jupiter doivent jouer. Parce qu'une grande planète placée à 90 degrés derrière l'autre, à la fonction de la pointe de 10 par rapport à l'ascendant. C'est toujours le principe de la croix qui joue ici, n'est-ce pas? Or, pourquoi l'ascendant? Pourquoi le bélier? Pourquoi ce départ dans la vie de la première maison? Vous demandez à l'individu, eh bien, pourquoi est-ce que tu démarres dans la vie, toi? Et l'individu dit, oui, eh bien, il va consulter instinctivement sa dixième maison. Et il dira, à cause que, parce que, et le parce que, c'est la signification de sa vie. Je suis au monde pour ma carrière, pour faire ceci de ma vie, pour faire ceci de ma vie. Dixième maison, maîtresse de 10. Alors l'Uranus arrivant en carré de ce Jupiter, dit à Jupiter, voici la raison pour laquelle tu es ce que tu es. Alors, rectification de Jupiter, alignement de Jupiter avec cette position.
Ce n'est pas que Jupiter maintenant entre dans le réseau uranien de la nature, mais le réseau uranien lui a donné tout d'un coup une note de base, et sur son propre réseau, ayant pris le diapason, il file avec ça.
Voilà pourquoi ces carrés sont des carrés dramatiques, des carrés créateurs, des carrés indispensables, car on ne change d'orbite des planètes, on ne passe d'une orbite d'une planète à une autre, on étend ces orbites et on ne les fait se joindre que par la quadrature. Que par la quadrature. Vous imaginez l'extension dans la conscience et l'âme de l'individu. Quand il passe de l'orbite de Jupiter à l'orbite d'Uranus, les proportions sont les mêmes que dans le système solaire. Les mêmes. Alors il passe d'une horloge qui fait le tour du centre de la croix, du centre du thème en un an, à une horloge qui ne le fait qu'en 80 ans, 84 ans.
Vous avez l'extension kilométrique exactement analogue à celle que nous avons en astronomie.
Uranus est à 1700 000 kilomètres, non, 1700 miles, pardon, à 1 700 000 miles, alors ça représente 2 400 000 kilomètres du Soleil. Jupiter est évidemment à quelques centaines de millions. Mais vous voyez l'extension dans la conscience qu'il y a là pour chacun de nous. Voilà, je me suis bien fait comprendre cette quadrature-là. Elles ne reviendront plus jamais ici, pas le temps. Passons à une autre affaire sur le phorosite. En ce moment, nous sommes réunis, nous convergeons tous, les pointes de nos consciences convergent ici, à 5 heures dans cette chambre, Paris. 5 heures. Nous sommes ici. Le mercure de chacun de nous est ici. Il y a une maison qui joue pour chacun de nous maintenant. La maison qui joue maintenant, c'est la maison de la journée d'aujourd'hui, qui a commencé avec le lever du soleil. La journée commence à l'aurore. Faire le thème de l'aurore, c'est faire le thème diurne, le thème du jour. Ce thème est valable pour les 24 heures jusqu'à l'aurore prochain. C'est un entier, celui-là. C'est l'entier. Cet entier lui-même va maintenant pouvoir se réduire à ce qu'on appellera le thème de la minute, le thème de 5 heures cet après-midi. Or, ce serait très intéressant de faire le thème de 5 heures cet après-midi. Une naissance, car ceci, cette réunion, tout contact est un mariage. Tout mariage est une naissance. Car un contact naît quelque chose. Et ce qui naît de ce contact, c'est immédiatement l'enfant du contact, et c'est toujours par l'engendrement d'un nouvel enfant de notre conscience que nous procédons dans le cheminement de la vie. C'est ça. Ça, c'est le grand système de la balance. Je vous rencontre, vous me suggérez quelque chose, et je vous suggère quelque chose, peu importe quoi. Je vous suggère quelque chose. Cette suggestion que vous m'apportez, parce que je vous ai rencontré, me donne une image de moi-même et de quelque chose, autant que de vous, mais ça me donne surtout une image de moi-même par rapport à vous, et me donne une image de quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'enfant qui est né de cette rencontre. Alors l'enfant qui est né d'une rencontre, c'est le thème même de l'heure. Le thème même de l'heure, c'est l'enfant de la rencontre. Quel est le thème de 5 heures aujourd'hui? Et voyez, maintenant vous dites, à Paris, il est né plusieurs enfants à 7 heures. Fatalement, des enfants, des vrais enfants, alors, n'est-ce pas? Donc ça sera le thème pour la vie. Eh bien, vous n'avez qu'à vous dire, quelle sorte de thème aurait cet enfant dans la vie? Et vous pourrez en même temps, analogiquement, vous dire, voilà l'idée qui ce soir est née dans mon esprit, et qui durera la durée d'une idée. Or, quelle est la durée d'une idée? Quelle est la durée de ça? Ce qui est fascinant, c'est que tous les moments sont des thèmes nouveaux, que tous les moments sont des thèmes nouveaux, dont les durées peuvent être très courtes ou extrêmement longues, allant même sur un siècle, puisque vous avez des gens qui sont centenaires. Je dirais même beaucoup plus qu'un siècle, puisque nous avons notamment un thème qui a commencé le 4 juillet 1776 et qui est en pleine vigueur et qui a plus de 180 ans, ce sont les thèmes, le thème des États-Unis. Le thème des États-Unis, mais...
Et encore, pardon, parce que je vais vous apporter ça, la découverte de l'Amérique en 1492.
Oui.
Et alors là, il y a tout...
Quoi
là, les fondations des États-Unis dans ce thème, le premier président, la guerre et tout.
Dans le thème de la découverte de l'Amérique, de l'île dans laquelle Christophe Colomb est là. C'est dans un cahier astrologique allemand, ça?
Oui, oui.
Et on a su
avec toutes les directions secondaires.
Et vous dites que Christophe Colomb a marqué l'heure quand il a découvert la Terre.
Oui, c'était absolument sûr parce que la Terre constitue ça.
Oui. Non mais attends. Revenons, soyons précis. Ce qui est donc vraiment fabuleux, mais absolument certain, c'est que à cette minute peut naître une nation, n'est-ce pas? Et cette nation peut fort bien avoir une vitalité de plusieurs centenaires, plusieurs siècles. Donc ce thème va durer jusqu'à la fin de cette nation. Et nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce qui va faire la fin de cette nation? Eh bien, nous allons faire ça par analogie et nous allons prendre maintenant que ce soir à 5 heures, par notre contact, naît dans chacun de nous une idée particulière qui va être conforme à l'ensemble des maisons et des astres de cette heure-ci par rapport à votre thème radical, à vous, chacun individuellement. Cet enfant que vous allez, qui va être né là, est, en effet, c'est une idée. Et vous vous dites une idée, ben, mon Dieu, cette idée est née maintenant, c'est très joli, mais ça peut passer tellement vite une idée, voilà. Mais non, faites attention, cette idée ne peut mourir, par conséquent son thème expiré et la validité de son thème expiré qu'à la condition qu'une autre idée prenne sa place. Qu'à la mort d'un être, c'est la présence de l'arrivée d'un autre. C'est tout le principe des métamorphoses est là. Tout le principe des mutations se trouve là. Vous êtes en train de grader, vous avez tout le temps, périodiquement, vous avez une idée nouvelle. Mais pour n'importe quoi, quand ça ne serait que pour votre commerce. Une idée nouvelle. C'est une idée nouvelle. Vous me direz, oui, évidemment, elle découle de précédents. Il y a une certaine suite dans mes idées, n'est-ce pas? Mais enfin, elle a la caractéristique très nette de créer un événement nouveau. C'est une idée nouvelle. Eh bien, cette idée nouvelle va rester, surtout quand elle n'est pas butée, qu'elle n'est pas fausse, ou enfin, qu'elle est admirablement adaptée aux circonstances. Cette idée nouvelle va fonctionner jusqu'à ce que son propre enfant prenne sa place. Car les idées ne se développent pas par addition, mais par multiplication, c'est-à-dire par genèse. Les idées s'engendrent les unes les autres. Vous n'avez pas une idée sans que cette idée en engendre l'autre. Et c'est ça. Alors vous engendrez une idée à 5 heures qui va elle-même faire des enfants. Et dans ces enfants, cette idée va se perdre. Et dans les enfants de cette idée, on trouvera l'hérédité parentale de ces idées et on retrouvera l'idée de 5 heures aujourd'hui. Tout est en mouvement et tout se tient tout le temps. Il s'agit de savoir de quoi c'est le thème. Est-ce le thème de l'idée? Est-ce le thème d'un enfant nouveau-né? Est-ce le thème d'une révolution solaire pour certains qui seraient nés aujourd'hui à 5 heures? Alors c'est valable pour une année, n'est-ce pas? Est-ce le thème d'une lunaison? C'est valable pour 29 jours. Est-ce le thème du jour? C'est valable pour 24 heures. Et ainsi de suite. Et plus la durée est longue, plus les aspects et les ordres d'aspects sont grands. plus la durée est courte, plus les ordres d'aspect sont réduits. C'est logique aussi. Les temps sont, comme les aspects, comme les ordres sont plus largement une question de temps aussi, fonction organique de croissance, forcément, cela pour une aise, ça va beaucoup, c'est beaucoup plus ému que ça serait sur une vie entière. J'ai fait le thème, mais je ne l'ai pas fait pour l'aurore. Mais aujourd'hui, j'ai fait le thème pour midi. Paris, midi. Alors, c'est très intéressant. Amusez-vous de faire le thème de l'aurore aujourd'hui. Mais faites le thème de Paris, midi. Nous sommes aujourd'hui, à cette heure-ci, nous sommes dans la septième maison. Nous sommes. Paris, midi nous donne 4 du poisson. Pour 4 du poisson, et le soleil est encore en 10 à 7. Et maintenant. Avec des maisons tournantes, nous sommes arrivés vers la septième maison. Nous entrons dans la sixième maison, nous arrivons dans le Sagittaire de ce thème du jour. Et quand cette réunion sera finie, nous arriverons sur le Neptune. Le Neptune de la journée. Ah, parce qu'on est bien les heures qui passent. C'est fascinant à suivre. Évidemment, Suivre ça, c'est pas donné, je veux dire, vous me direz, mais je me suis dit moi-même, je me le dis assez souvent, oui, mais enfin, on n'a pas le temps de s'en occuper du temps, hein. On a autre chose à faire, on est pris par ceci, on est pris par ça, et puis quoi, comme on se grouille quand même, le système des bruits fonctionne, l'adaptation moyenne est faite, que la vie ne nous présente pas, dans tous les jours, des événements tellement fantastiques qu'il faille voir le thème pour savoir comment, de quoi il s'agit, comment on va le débrouiller, on fricote, on passe. Mais si j'en parle, c'est surtout au point de vue de ce que je suis la voix de Saturne quand j'en parle. Quand vous parlez astrologie, vous êtes Saturne. Parce que c'est du saturnisme à fond. Parce que le saturnisme, c'est la prise de conscience. Et les prises de conscience ne se font qu'en profondeur et pas ailleurs. Et qu'il y a un moment donné où la profondeur devient toujours et fatalement astrologique. Que de faire de l'astrologie, c'est de faire de trouver les spirales intérieures, c'est de trouver la vertébration de toutes les énergies, de leurs fonctions et de leurs principes. Et ça, l'astrologie est intéressée à des principes et à leurs fonctions. Elle n'est pas intéressée à un monde spirituel, elle n'est pas intéressée à un monde dit spirituel ou dit physique, elle est intéressée à des principes et à des fonctions, et c'est dans le langage de la mathématique qui se moque éperdument des qualificatifs qu'on y ajoute. Est-ce que le trigone est spirituel, est-ce qu'il est physique, est-ce qu'il est ceci, c'est absolument un langage déplacé. Il est le trigone. Le trigone, c'est le carré, c'est le carré. Il y a là une question de principe et une question de fonction. Quelle que soit la chose énergétique qui est suspendue aux deux points du carré, ça joue en loi de carré. Bien entendu, en sortant. Ou alors, ça joue en loi de trigone. Et donc, je dis que c'est du saturnisme tout simple de vouloir plonger dans cette introversion constante de soi-même pour découvrir toujours graduellement, les rouages, les mécanismes de tout ce qui affleure d'heure en heure à la conscience et qui, par la loi de correspondance, va affleurer devant la conscience, non pas à travers elle, mais devant elle et venant du dehors, ce qui sera analogique suffisamment pour faire le jeu des échanges, de la balance entre les êtres. Car la balance est tout le temps ici, en ce moment-ci. Nous n'avons de rapport possible qu'avec la balance. C'est toujours la balance. Et dans un moment, je vais y venir particulièrement sur le mystère de la balance, je vais parler justement de ce mystère de nos relations, dès qu'on est par le seul fait du contact. Mais quels sont les principes fondamentaux qui sont immédiatement en jeu? On parle de la liberté, on parle du libre-arbitre, du choix. Mais il n'y a pas de choix à moins que Saturne nous en ait donné le pouvoir. créature en salle nous donne le pouvoir, si l'on peut dire ça, le choix. Plus exactement, il ne nous donne pas le pouvoir du choix, il nous donne la seule sensation de véritable lucidité qui est synonyme à l'idée de liberté. Arriver à comprendre une situation jusqu'à son origine, c'est littéralement se détacher par son Mercure, par sa tête, par la couronne de son âme, c'est se détacher de la situation. Si même on continue à être dans le réseau de cette situation, il se trouve qu'on devient un interlocuteur de sa situation. Il se trouve qu'on lui parle, et qu'on lui parle la langue éternelle de la loi cosmique. Quand on part de la situation pour lui parler, et quand vous pouvez vous emparer de votre situation, et l'avoir saisi dans ses profondeurs, comment pouvez-vous le faire sur l'astrologie, et que vous pouvez lui parler à votre situation, à ce moment-là, vous passe à travers l'épine dorsale la première sensation d'une véritable liberté. Être libre, c'est être le droit d'être complètement lucide, et pour être complètement lucide, d'avoir le savoir qui explique pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas. Le mot liberté ne va pas avec le mot ignorance. Ce sont des termes absolument contradictoires. Le mot liberté, c'est le résultat de la connaissance. De la connaissance que nous n'avons pas. Donc tant qu'on ne l'a pas, on n'est pas libre. Mais dans la mesure où on l'a, on a un degré de liberté d'être plus grand. Voilà pourquoi, en réalité, derrière toute notre fascination pour l'astrologie, ce qui nous travaille tous, c'est que nous en sommes en marche vers la liberté. Et que c'est la seule voie qui nous y amène. Cette délivrance des fardeaux, des différents, donc des faux problèmes, puisque toujours quand on est en face d'une chose, dans une ignorance relative, on va lui donner une étiquette qui ne correspondra pas à sa véritable signification. Arracher les fausses significations aux bouteilles. Maintenant, revenons au transit. Regardez le transit de l'heure. Simplement notre contact ici. Et ici, monsieur, je reviens à votre fameux 8. C'est-à-dire votre cône inversé. Votre sablier. Dans la boîte blanche. Or, c'est toujours Saturne qui détermine, d'où le grand principe de la dixième maison astrologique, toujours. Car c'est bien ce que les Arabes avaient senti, c'est qu'ils ont appelé le milieu du ciel, la dixième maison, la verticale de la croix, ils l'ont appelé la volonté du ciel, n'est-ce pas? Or, la volonté du ciel, c'est précisément le Saturne qui établit, qui présente la balance à chacun, pour que chacun se mette dessus. Mais chacun ne peut pas se mettre sur les deux plateaux, chacun se met sur un plateau par rapport à quelque chose qui est sur l'autre. D'un coup, je peux être là, et je suis toujours sur un plateau. Nous sommes toujours sur un plateau. Mais je peux choisir, ou on peut me forcer à mettre... je peux choisir ce qui est sur l'autre. Je vais vous montrer comment on va choisir ce qui est sur l'autre. Je peux tout d'un coup penser au soleil. À ce ciel qu'on voit la nuit ou le jour, et mettre ça sur la balance en face de moi. Alors vous comprenez avec quelle facilité je me sens basculer. Vous voyez beaucoup de bascule. Vous voyez, n'est-ce pas? Ouf, moi, tout petit par rapport à cette immensité, je peux choisir un œuf de poule et le mettre sur la balance. Alors je renverserai les valeurs, et ce serait moi qui sera le grand monde, et l'autre sera le petit. Mais c'est toujours une opération de la balance, c'est toujours une notion de réciprocité, et de perspective, et de prise de conscience, et de tout ce que le choc, car un autre nous donne un choc, mais le ciel m'en donne un autre. Et c'est toujours choc. Et si j'ai mis le ciel, peut-être que c'est le ciel qui s'est mis tout tranquillement dans la balance, l'autre passe de moi et me dit, tu vas m'en garder maintenant. Mais peut-être c'est moi qui me suis dit, je m'en vais regarder le ciel. On ne saura jamais lequel des deux l'a dit à l'autre. N'est-ce pas? Jamais. Vous pouvez dire, oh, il y a un orage épouvantable, je n'aime pas la foudre. Oh, il faut se mettre à l'abri. Eh bien, évidemment, là, c'est pas vous qui avez choisi ça, n'est-ce pas? C'est là. Si nous entrons dans le mystère de l'autonomie en contradiction avec l'indépendance. Un être indépendant, s'il pouvait exister, aurait un centre de gravité propre et jamais rien d'autre. Mais comme nous ne sommes pas des êtres indépendants, mais des êtres autonomes, alors nous avons notre centre de gravité et nous en avons un autre, et c'est le centre de gravité commun que nous partageons avec d'autres. Le centre de gravité commun rend un système possible, rend une société possible. Un centre de gravité commun rend un système d'idées possible. Un centre de gravité commun permet une forme, parce qu'une forme est toujours en relation avec ce qui n'est pas le soi, ce qui est l'autre. Rien n'a d'intérêt à avoir une forme s'il n'y avait pas l'autre. Rien n'a d'intérêt à avoir une forme quelconque s'il n'y avait pas l'autre. S'il n'y avait pas le monde autour de notre corps, y aurait-il une raison quelconque d'avoir un corps, si tant est que nous serions là. Admettons que nous serions là, nous n'aurions pas besoin d'un corps. Le monde de la forme, la définition de la forme, la nécessité de la forme, la justification de la forme, l'histoire de la forme, sa genèse, sa conclusion, sa fin, c'est tout de l'astrologie ésotérique, ça. Et c'est parfaitement précis, on peut suivre ça sans mystique. Parfaitement précis. Mais je reviens maintenant au fait que de rapport avec autrui, qui nous déplace immédiatement de la fonction d'indépendance à la fonction d'autonomie, n'est possible qu'à cause d'un centre de gravité commun. Donc un centre de gravité commun, c'est un centre de gravité où l'on retrouve l'autre. Et quand je retrouve l'autre, je ne trouve pas son centre de gravité à lui. Lui ne trouve pas mon centre de gravité à moi. Ça ne peut pas l'intéresser. Ça ne peut pas m'intéresser. Ce qui nous intéresse tous les deux, c'est le centre de gravité commun. Et le centre de gravité commun, le voilà. Là. Il est là. Il est là. Là. Ce qui m'intéresse en vous, c'est ça. Par quoi je peux prendre conscience de vous, établir une fonction de la balance. Ce qui me rend intéressant à vous, c'est la même chose. Nous nous joignons là. Et c'est ça le mystère de la septième maison astrologique. C'est ça la balance. Quel que soit le signe qui en soit, momentanément le fonctionnaire, c'est ça la balance. C'est Saturne qui tout le temps nous accorde le centre de gravité commun. Car s'il n'y a pas un centre de gravité commun, alors nous sommes indépendants l'un de l'autre et ignorés l'un de l'autre. Et sans partage possible entre nous, par hasard. Car l'indépendance, c'est la couture, c'est la négation de toute espèce de dépendance. Or, l'autonomie est une forme de dépendance qui n'est pas une dépendance. Et alors, vous avez tout le paradoxe fondamental de la vie. Le jour où vous pourrez vous donner une définition radicale du terme indépendance, qui sera facile, mais alors du terme autonomie, vous aurez tout compris à la vie. Vous aurez tout compris. Vous avez tout compris. Voilà. Alors, nous avons un centre de gravité commun. Et ce centre de gravité commun, où se trouve-t-il en vous? Où se trouve-t-il en chacun de nous? Je ne veux pas me lever parce que je ne veux pas vous faire du bien. Ce centre de gravité commun, avez-vous réfléchi un instant à la raison pour laquelle votre cœur n'est pas au centre de votre corps? Avez-vous réfléchi que votre cœur est à votre gauche? Il n'est pas à votre droite, mais à votre gauche. Et qu'il n'est pas sur la surface extérieure, qu'il est quelque part entre le centre de gravité commun, qui est l'axe de la colonne vertébrale, et la limite gauche de votre corps. Le cœur, biologiquement, le cœur de l'homme et le cœur psychique de l'homme, c'est le centre de gravité commun entre vous et l'autre, et c'est parce que vous avez un cœur que vous n'êtes pas indépendant, mais que vous êtes autonome. Voilà une notion phénoménale, une notion fondamentale. Vous la saisissez, ça. Vous saisissez l'immensité de ça. C'est sur ce thème-là que j'espère sortir tout un livre. Le mystère de la balance, qui lui seul permet une systématique de n'importe quoi, qui lui seul donne un cadre de référence à tout ce qui n'est pas soi, par rapport à soi et avec soi, qui rend un univers possible, de sorte que le véritable ascendant du globe et de nous-mêmes n'est pas le bélier, c'est la balance, l'ascendant de notre autonomie. Alors que le bélier, ce serait presque l'ascendant de notre indépendance. N'est-ce pas? Et que l'indépendance n'est qu'une forme momentanée du jeu de notre autonomie, le droit de retour sur nous-mêmes par rapport à l'autre. Le bélier n'est que le droit de notre retour sur nous-mêmes momentanément par rapport à l'autre pour reprendre l'autre en main cycliquement. Le mystère du 180e degré de longitude sur le globe. C'est le mystère de l'origine même du globe. Nous le prenons maintenant cosmiquement. Maintenant, je reprends ça. On me suit à ce moment-là. Vous suivez ça. Je continue. Maintenant, ne bougez rien. Je maintiens ce dessin exactement archétypique, fondamental. Saturne n'a donc de raison d'être que parce qu'il y a des autonomies qui sont en liaison, en fonction liante, constante. Par conséquent, si vous avez un cercle, avec son centre de gravité à lui, vous avez ce qu'on appelle un soleil, si vous voulez, un soleil, c'est le cercle, c'est l'unité, c'est unité, mais alors regardez que ici, rien ne sort, rien n'entre, c'est l'indépendance. Alors dans la part indépendante qui fait de lui une individualité, qui le rend distinct de tout ce qui n'est pas lui, et c'est ce point de l'autre, et qui fait ça que le point est au centre. Et c'est ta garantie qu'il est lui et pas quelqu'un d'autre. C'est ce point central. C'est tout le mystère ici de d'être envisagé comme des unités non interchangeables, absolument indivisibles et irremplaçables, chacun à sa place. Mais le moment que vous intronisez le facteur, alors ça c'est axial ça, axe, c'est une puissance axiale ça. Mais maintenant, à la puissance, alors l'idée de axe immédiatement amène l'idée de orbite, c'est-à-dire de quelque chose qui est en révolution autour d'un axe, autrement c'est pas un axe, n'est-ce pas? Ce soleil qui est là, ce cercle qui est là, ce point qui est là, on ne va pas l'appeler un axe, il est tout seul. Ben non, mais il est parti d'un système, et c'est le système qui va, qui va le baptiser, qui va le définir. Or, le système, c'est l'orbital. Alors, s'il y a quelque chose d'orbital, et nous l'avons appelé maintenant la Lune, parce que ça, ici, pour la Terre, c'est précisément ce qui va nous permettre de faire la découverte totale de tout ce que je vous m'en encore dire, à dire, ce qu'on va tous découvrir là-dessus, il y a la Lune. Or, la Lune étant orbitale, tournant donc autour de l'axiale, qui est la Terre, ici. Je suis la Terre, maintenant. Tournant là autour. Force est de découvrir que du moment qu'elle est orbitale à la Terre, et que la Terre est axiale par rapport à elle, il lui faut, à ce binaire, car maintenant nous avons un binaire devant nous, il lui faut un centre de gravité commun. Donc, Saturne est une fonction qui n'entre en jeu que lorsque vous avez un principe dit axial par rapport à un principe dit orbital. Quand une force est orbitale à une qui est axiale, vous avez toujours la présence de Saturne, sans quoi il n'y aurait pas une orbitale, il n'y aurait qu'une tangente à l'axe. Pour que l'orbitale soit centrifète, pour qu'elle obéisse quand même au centre de gravité, il y a donc le principe saturnien. Alors le principe saturnien, c'est précisément ceci, là, qui va se placer quelque part entre le centre de la Terre et la Lune. Or, où se trouve ce centre de gravité ? C'est astronomique, c'est précieux astronomique, c'est le centre de gravité commun à la Terre et à la Lune, car la Lune ne tourne pas autour de la Terre, elle tourne autour d'un centre de gravité commun à la Terre et à la Lune. Et la Terre a un petit mouvement d'obéissance tout le temps au centre de gravité commun, et ce centre de gravité commun est dans la Terre, quelque part dans la Terre, et c'est le cœur de la Terre, comme notre centre de gravité, c'est notre cœur lorsqu'il s'agit des autres que de nous. Lorsqu'il s'agit des autres que de nous, et il est à notre gauche, car la balance est ici, et là, et le denier est là. Alors voilà le centre de gravité, comment il est ici. Les idées d'astronomie vous le diront. Il est là, et vous voyez que ça fait le cœur de la Terre, qui lie la Terre à son orbital, à son satellite, à sa lune. Voilà, c'est fini, je me l'agrète. Et lorsque nous mettons, pour donner le cas extrême, lorsque nous mettons Jupiter dans un thème, nous savons que Jupiter a 12 lunes, 12 ou 13, peu importe d'ailleurs. Eh bien, n'est-ce pas, nous ne voulons pas nous amuser à des détails pareils, ça ne tirerait rien, nous n'en sommes pas du tout là. Mais, théoriquement, nous ne devrions pas mettre Jupiter, le centre de Jupiter, dans le thème. Parce que quand on met Jupiter dans un thème, c'est en principe, c'est son centre de gravité propre qu'on met. On devrait mettre dans le thème, le centre de gravité que Jupiter a avec tous ses satellites. N'est-ce pas ? C'est le point où le centre de gravité joue entre lui et ses satellites. Où là, lui répond aux satellites, car il répond aux satellites. Il répond aux satellites. Et nous répondons à tous nos satellites par notre cœur. Car tous les autres êtres par rapport à nous-mêmes, sont des satellites de nous-mêmes. Et nous sommes leurs satellites. Ah, si nous sommes, il est satellite, l'autre est notre satellite. Et donc l'autre est toujours fonction de la Lune pour nous, quel qu'il soit. D'abord fonction de la Lune, c'est-à-dire, je m'explique, attention, c'est pas si simple que ça. Oh, si c'est seulement en fonction de la Lune, c'est pas si simple que ça. Mais voilà, vous voulez me relever. Fonction de la Lune. La Lune assure le plateau de la balance qui est là. Voilà ce que je voulais. Voilà le rôle, le plateau. Donc voilà. Mais la Lune assure l'autre. La Lune, c'est la matrice porteuse de tout. Vous avez donc ici le plateau de la balance, ici le plateau de la balance, et puis vous avez le fameux demi-cercle ici, qui est représenté précisément par la formation graduelle de la puissance saturnienne, intégrant, équilibrant les deux plateaux. Les deux plateaux. Ce n'est pas du tout ce que quelques-uns ont écrit avec beaucoup de poésie, que le signe de la balance nous montre le soleil se couche, parce que c'est 6 heures du soir. Vous l'avez certainement lu quelquefois des explications pareilles du signe de la balance. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça a à faire avec la puissance graduelle de ceci. Car Saturne tire et en tirant, il amène tout ça dans le cercle. Il amène tout ça dans le cercle. Et finalement, ça ne fait plus quand ça grandit. Ça s'est complètement absorbé dans un nouveau cercle. C'est une nouvelle unité. Vénus est la puissance qui fait que 1 plus 1 passe 1. Vénus, c'est la puissance, c'est le principe, c'est la fonction qui de 1 plus 1 font 1. C'est 1. Ça, c'est Vénus. Alors, justement, vous prenez un bout de tapis qui est là, vous prenez un bout de tapis qui est là, vous êtes le personnage qui est là, vous ramassez votre tapis, vous ramassez ces deux, et vous les emmenez avec vous comme ça, et vous les rendez d'horizontaux et contradictoires, vous les parallélisez pour finir par les unir. C'est l'action de Saturne dans la balance. Et c'est ça que traduit ce premier, c'est ça qui est indiqué dans ce premier mouvement, dans ce premier demi-cercle qui préside au signe de la balance. Voilà. Voilà, c'est le nouveau sein de Saturne. Bon, Saturne. Alors voyez, cette balance n'a de raison d'être que parce que la Lune est ici, et que la Terre est là, et que vous êtes toujours la Terre. Elle n'a de raison d'être que parce que la Lune est là. Alors, ici, la Lune, quand fait l'espace qu'il faut, fait en quelque sorte précisément le sol, le plancher, elle fait le plancher. Et sur ce plancher va venir le thème de l'autre. Le thème de l'autre. Le thème de l'autre, entendons-nous. Le thème de l'autre sans la Lune. Parce que quand on amène un thème en face de soi, on amène la Lune du thème. Et la première force qui vient à vous, quand on vient le thème de l'autre, c'est sa Lune. D'abord la Lune. Sans la Lune, il n'y a rien. Sans la Lune, il n'y a aucun espèce de rapport. Vous ne pouvez pas contacter la Terre sans la Lune. Il faut passer sa zone. Il faut passer sa zone et vous ne passez pas sa zone quand vous passez la Lune. La Lune et sa zone, c'est un. Alors, ici, le thème de l'individu arrive avec sa Lune. Vous êtes là avec la vôtre et vous voyez que votre Lune, obéissant à la loi générale de gravitation qui veut que la Lune tire tout vers elle pour lui permettre à toute chose de grandir. Elle tire tout vers elle, elle tire votre lune, elle tire la lune de l'autre. Elle établit le plateau de la balance ainsi, entre votre lune et la sienne, entre le tout de votre thème et le tout du sien. Mais pour qu'il y ait la possibilité d'avoir ce plateau par rapport à ce plateau, il faut qu'il y ait la lune. Pour que vous ayez un cœur dans votre poitrine, il faut qu'il y ait la Lune. Et ensuite, toutes les planètes qui font que vous allez maintenant aimer un autre être, vous intéresser à un chien, un chat, un arbre, à une personne, à un enfant, même à Dieu, il faut commencer par là. Je repars quand périodiquement je suis saisi par cet horizon de pensée, et vous imaginez bien combien il a fallu de perspicacité dans l'étude des thèmes pour se rendre compte que c'était ça qui était en jeu. C'est toujours cette grande notion fondamentale il n'y a pas besoin de Saturne s'il n'y a pas une puissance orbitale à la vôtre. Il y a là où une force est entièrement indépendante, elle n'a pas de satellite, et elle n'est pas satellite. Donc, elle n'a pas à obéir à quelque chose d'extérieur, et ce quelque chose d'obéir, elle ne peut lui obéir qu'à la condition qu'elle soit satellite, ou que quelque chose lui soit satellite. En ce cas, il faut Saturne, sans faire rien qui marche. Parce que c'est Saturne qui va permettre un système, une architecture de l'univers. Minuscule ou grand, ça n'a aucune espèce d'importance. Tous les astres, toutes les galaxies ont des Saturnes en masse sans lesquelles il n'y aurait pas de galaxies. Les nébuleuses sont des systèmes, si l'on veut les appeler des nébuleuses, mais si nous admettons l'idée telle que notre imagination se fait d'un monde en, purement en état gazeux, c'est des Saturnes en formation encore, qui n'ont pas encore pris une consistance assez puissante pour créer un système. Dans le monde des gaz, dans le monde de la chimie, dans le monde des éléments, vous avez les Saturnes comme vous avez les Jupiter, vous avez tout ça, ce sont des fonctions, des principes. Des principes de rapport. Donc, je crois ce soir vous avoir apporté, entre autres, une chose, une notion énorme, la notion de notre cœur, dans notre poitrine, qui n'est pas au centre de notre centre de gravité. N'est-ce pas, Madame de Dino? Alors maintenant, je sens le besoin peut-être de préciser ça davantage. Vous, disons maintenant que c'est, je suis donc homme, et maintenant je vais parler, je vais admettre que c'est, devant moi c'est la une femme. Bon. Alors, première vue, naturellement, si l'on pense à une femme, il est naturel de dire, ah ben ça se comprend, c'est la Lune. Bon, c'est la Lune pour le Soleil que je suis. Parce qu'ici, le rapport Terre-Lune, ça n'a pas la Terre, c'est analogue au Soleil. Ça va toujours de soi, ça va de soi. Vous ne comprenez rien à l'astrologie si vous ne comprenez pas que le symbole de la Terre par rapport à la Lune, c'est le symbole du Soleil. Le Soleil de la Terre, c'est votre Soleil, Soleil de la Terre. Enfant du soleil de la terre, etc., etc. C'est la terre. Vous êtes votre thème. Alors justement, regardez bien votre thème. Il n'est pas la terre, le thème. Oh, il est dans un monde de choses. Donc, je n'ose pas vous parler encore ce soir, mais j'y viendrai. Je reviens, si ces groupes me réclament à Paris suffisamment, j'y reviendrai pour leur donner les choses les plus secrètes dont je suis capable. Votre thème, c'est votre centre de gravité propre. D'accord. Ce centre de gravité propre, il est au centre de quoi dans votre thème? Au centre de votre soleil, pas au centre du thème. Votre thème, c'est la Terre et c'est la Lune, votre thème. Que tout est ensemble. Et ce que vous appelez le centre de gravité du thème, le fameux point dont je parle, c'est ici le centre de gravité qui est là. C'est ça qui est au centre du thème. C'est ça qui est le centre du thème. Voilà pourquoi le soleil n'est pas lui au centre du thème. Mais voilà pourquoi il n'est pas loin du centre du thème. Et voilà que quoi qu'il arrive, lié à toutes les maisons, et lié par l'extension même que lui offre la Lune à toutes ces maisons, elle périphérie du thème, elle le cercle du thème, il est obligé tout le temps d'être de faire ce mouvement, sans être lui-même jamais centre, et sans jamais être détaché du centre, littéralement, l'homme est crucifié sur sa croix, là où est son cœur. Car le centre de votre thème est là où est votre cœur, non pas là où est votre tête. Et le signe du lion, c'est précisément le signe du cœur. C'est le signe où fonctionne spécifiquement pour vous le soleil, le centre de gravité avec l'autre. C'est tout un monde à reconstruire entièrement la structure, la généalogie et comment dirais-je, la hiérarchie des valeurs dans l'intérieur de ce globe qui est le Père. Vous placeriez-vous le soleil dans un terme, ça m'a cassé les pieds pendant des années. Par rapport aux autres, par rapport au centre de la croix, par rapport à la lune, etc., etc., etc. Donc, votre thème, c'est cette combinaison-là, toujours cette combinaison-là, c'est ça votre thème, Le centre de votre croix dans votre thème, le point de départ de toutes vos 12 maisons, n'est pas d'ici, il est de là. Voilà pourquoi vous souffrez dans votre cœur. Où vous souffrez d'ailleurs dans votre cœur d'avoir un thème. Votre indépendance, marquée par ici, souffre d'avoir à se sacrifier, à renoncer à elle pour fonctionner en autonomie, mais de concert avec d'autres, et d'obtenir un centre de gravité commun. Est-ce que le drapeau de la France n'est pas le centre de gravité commun de tous les Français? Est-ce que le drapeau de la France n'est pas dans le cœur des Français, nulle part ailleurs? Est-ce que ce n'est pas lui qui est le point de ralliement? En cela, vous dites, ah non, je ne suis pas un être indépendant, je suis Français. Vous avez immédiatement placé le rapport entre la bannière de la France et votre cœur, non pas votre poids, ni votre tête, ni vos reins, ni votre cœur.
C'est l'ironie,
c'est quand même pas un distingue pour tous les thèmes que vous dites. C'est absolument formel pour tous les thèmes.
Oui. Mais dans le thème d'un chemin d'enfant de type enfant, etc., c'est quand même dans le thème de type de businessman, enfin de type dont les affaires priment le cœur. Enfin,
non, mais cher ami, il ne s'agit pas d'une question de prime de cœur, il s'agit d'une question organique, biologique, là. C'est une dérivée, ça c'est une ellipse, ça c'est une excentricité de l'équilibre dont vous parlez là. Quand les affaires priment le cœur, ben, c'est une question de 8e maison ou de 2e maison, ou de 4e maison, ou de 10e maison, mais c'est pas une affaire de 5e maison. Et puis enfin, quand les affaires priment le cœur, il a son cœur dans ses affaires. Il a donc toujours son cœur. Mais il s'en connaît certainement pas autonome, pas même indépendant, et guère autonome, puisqu'il est l'esclave de ses affaires. Il est l'esclave de ses affaires. Il a habité avec ce qui est dans la balance, qui tient ton centre de gravité commun en mouvement avec toi-même. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Dis-moi, qui est sur l'autre plateau de ta balance et qui manie ton centre de gravité commun au sien? Il est au centre et le sien aussi. Car il faut bien comprendre que l'autre, nous ne l'attrapons que par son centre de gravité commun à nous. On ne l'attrape pas par son centre de gravité propre, mais par ce qui est commun à nous. C'est tout le mystère de l'événement qui s'appelle la rencontre de deux êtres. Le simple contact, quel qu'il soit, n'importe où, dans la rue, quoi que ce soit. Et enfin, tous les contacts qui graduellement organisent un système. Si vous pouvez voir l'origine d'une sphère, si minutieuse qu'elle soit, des éléments qui ont rendu possible, disons, la sphère terrestre, par exemple, mais prenons ça en plus petit, il en a fallu des balances pour que ça grandisse. Il en a fallu des ralliements, d'éléments qui ont reconnu un centre de gravité commun à tous les deux, puis à tous les quatre, puis à tous les 12, puis à tous les 144, et ainsi de suite en multiplication, pour que graduellement tout ça fasse une unité, et que tout ça, le Saturne, en fasse une verticale assez grande pour indiquer la norme d'une sphéricité des horizontales par rapport à cette verticale. spatiale et permettre l'existence d'un globe. D'un globe. Tout le mystère de la genèse même de la Terre est là-dedans.
Le Soleil, par conséquent, passe par le centre réel de la Terre, bien sûr, exprimé au point de vue rapport de distance.
Là, non, monsieur. Le Soleil du ciel
passe par le centre de la Terre.
Non, il passe par le centre de gravité commun.
Non. Par rapport au cœur.
Non, centre de gravité commun. Par rapport au centre de gravité.
Comment est-ce qu'on le trouve et qu'est-ce qu'il attend dans la Terre
Écoutez, ma chère.
Non, mais quand vous prenez le centre de gravité en tant que.
Parlez, monsieur Sokolov.
Quand vous prenez le cœur en tant que centre de point commun de gravité oui. entre la Lune et la Terre. Oui.
Je prends ça exactement ce que l'astronomie indique.
Mais alors, est-ce que vous considérez à ce moment-là que le Soleil, lui, se trouve au centre de gravité de la Terre, proprement dit, au centre de la Terre, au point de vue distance respective par rapport au centre de gravité de la Lune-Terre? Il faut bien que le Soleil soit au centre du thème, alors, finalement.
À ce sujet. Fouillez là. On en reparlera.
Je crois que c'est le centre de gravité Terre-Lune qui tourne autour du ciel.
C'est ça.
Alors, oui, d'accord, oui. Tourne autour ensemble en entraînant le cœur.
Ah, si vous voulez parler du thème, du soleil du thème, alors.
Oui. Oh.